Nous sommes en octobre 2016 et vous écoutez l'épisode 80 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et pour m'accompagner, j'ai avec moi celui qui a quitté son barrage pour venir au micro, c'est Père Castor.
Salut Dédé.
c'est une redite, hein, je l'ai déjà faite. Mais
Non mais j'étais pas là pour le précédent, donc tu l'as pu, t'as pu la mettre au frais.
Voilà, c'est ça. Et merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com.
Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast et aussi aux personnes qui sont restées sur Patreon, hein, on leur dit aussi merci.
Voilà. Mais il faut quand même penser à changer parce qu'on va bientôt fermer, hein. À la fin de l'année, c'est fini. Hein. Vous n'aurez plus la joie de nous donner. Alors, est-ce qu'on a des retours, des commentaires ? Je crois qu'on a des commentaires sur le site.
Ouais, il y a eu quelques retours sur l'épisode 80 où on avait accueilli les Ludonautes. Donc globalement, les auditeurs, ils ont apprécié d'en apprendre plus sur l'histoire des Ludonautes et également de leur futur produit Legends of Luma.
Luma, ouais. Et on en apprendra d'ailleurs bientôt, si ce n'est déjà fait au moment où vous écoutez ça, avec une interview de Yann Parovel à Essen.
Qui a été mise en ligne aujourd'hui, je crois.
Non, je ne crois pas. Non.
Non, okay.
Qui viendra.
Qui viendra. Ouais.
Parce que je ne l'ai pas encore monté, donc.
D'accord. Ah, donc c'est toi qui es la source.
Voilà, c'est ça.
Sinon, il y a aussi eu des... Il y a eu pas mal de commentaires sur l'épisode Jeu du mois qui a été fait par Cyrus et BenoFX. Donc c'est un épisode qui a pas mal été apprécié. Donc le format a l'air d'avoir plu. Donc restez à l'écoute, il y aura bientôt un deuxième numéro du jeu du mois pour le mois d'octobre.
La suite.
Voilà.
Alors on va commencer tout de suite avec les chroniques. La chronique Do It Yourself. Alors ce mois-ci, Courju, il nous prépare, il ne découpe pas des cartes. Non, il va nous parler de la scie.
Voilà, il nous explique comment est-ce qu'il faut couper son arbre de Noël, quand même. C'est bientôt Noël qui va approcher, donc il nous parle de la scie. Comment est-ce qu'on utilise une scie à chantourner ?
Ouais, c'est assez. On peut faire des trucs assez sympas. Et il nous a fait un jeton premier joueur avec le logo de Proxy Jeux. Donc on le mettra en image sur le billet.
Est-ce que ça sera un stretch goal pour ceux qui nous soutiennent sur Tipeee ?
Je ne sais pas, mais par contre, s'il y a un palier spécial pour Courju qui réalise un jeu print and play pour certains tipeurs qui nous donnent beaucoup.
Ouais, d'ailleurs, il y a deux tipeurs, je crois, qui nous soutiennent à ce niveau de participation.
Ouais.
Donc, ils devraient... recevoir durant cette saison un jeu fait des mains de Courju.
Voilà. Et du coup, on va l'écouter tout de suite.
Salut les joueurs, salut les joueuses, salut les bricoleurs et les bricoleuses. Dans cette chronique Ça va trancher, nous allons parler d'une scie. Donc, ça va trancher.
Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Ça va trancher, chérie.
Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Ah bon ?
Mais oui, t'étais où pendant le film, toi ?
Ah mais non.
Je vous avais prévenu, ça va trancher.
Aujourd'hui, donc une chronique un petit peu technique, et on va s'éloigner un petit peu du print and play, puisque je vais vous parler d'un outil qui, à la base, est quand même plutôt un outil de menuiserie, la scie à chantourner. Donc une scie à chantourner, c'est une scie avec une lame très fine, qui sert à faire des découpes courbes dans du bois, à la base, mais qu'on va pouvoir utiliser sur du carton très dense ou sur de l'isorel ou ce genre de matériaux. Donc c'est une scie qui peut se trouver en manuel ou en électrique, avec ou sans plan de travail. La scie, quand elle est manuelle, ressemble dans sa forme un petit peu à une scie à métaux en forme de U, sauf qu'au lieu d'être comme une scie à métaux très longue et peu profonde, la scie à chantourner, au contraire, est très profonde et plutôt courte. La lame fait 13 cm. En électrique, on va la trouver aussi sous cette forme-là et sous une forme sur table, où donc la lame est tenue verticalement entre le moteur qui est en dessous et un bras qui vient sur le dessus de la lame. Il existe différents types de lames, plus ou moins fines, avec des dents plus ou moins fines, pour couper du bois plus ou moins épais, mais globalement, on va pas dépasser de 10-15 mm maximum, et moi, je vais travailler sur plutôt du bois de 5-8 mm. Il existe des lames, on va dire, standards, un petit peu comme des lames de scie sauteuse. Donc les dents sont orientées vers le bas, la scie, elle va couper vers le bas. Et vous poussez le bois vers la lame pour couper. Et puis, il existe aussi des lames hélicoïdales qui permettent de découper dans tous les sens. C'est-à-dire que votre bois, qu'il aille de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant, de droite, de gauche, en diagonale, etc., la lame, elle coupe pareil. Et donc, avec une lame hélicoïdale, on va pouvoir faire des courbes encore plus fines qu'avec une lame droite. Alors, pourquoi je vous parle de cet outil-là? Je m'en suis servi récemment pour faire un jeton premier joueur. Et puis, du coup, ça m'a donné plein d'idées de façons de l'utiliser qui pourraient être adaptées aux jeux de société. Donc, je vais vous en parler. Je vous donne quelques petites astuces, quelques petits conseils sur comment on s'en sert. Donc d'abord, pour commencer par la scie à chantournée manuelle, il faut tenir, donc le manche est dans le prolongement de la lame, contrairement à la scie à métaux où le manche est perpendiculaire à la lame. Dans une scie à chantournée, le manche est dans le prolongement de la lame. On tient le manche dans son poing et le U de la scie vient reposer sur l'avant-bras et on va venir travailler le bois avec la main par en dessous, en essayant typiquement de plaquer son bois sur un plan de travail et de venir avec la scie à chantournée par en dessous faire notre découpe en forme de courbe. La scie électrique que j'utilise moi, c'est une scie avec un socle et un plan de travail. Les petites astuces, les petits conseils, d'abord sur la tension de la lame, il faut que la lame soit très bien tendue. Elle doit jouer de la musique quand vous la touchez avec votre doigt, elle fait gling gling. Le but, c'est va être de connaître votre outil et de savoir, en fonction du son qu'elle fait, si elle est assez tendue ou pas. Si vous cassez votre lame, on dit que si la lame a cassé proche du milieu, c'est qu'elle était trop tendue. Alors que si elle a cassé proche d'une extrémité, proche d'un point d'accroche, c'est qu'elle n'était pas assez tendue. Et donc, vous le saurez pour la fois d'après. Du coup, écoutez bien le son que fait votre lame une fois que vous l'avez tendue. Vous découpez avec, et si jamais elle casse, vous saurez la prochaine fois s'il vous faut un son plus aigu ou plus grave. Toujours concernant les astuces, la scie, en tout cas électrique telle que je l'ai moi, c'est une scie qui vibre beaucoup. Et on conseille, j'ai pas essayé encore de le faire, mais on conseille de la fixer sur un bac de sable. C'est-à-dire que vous préparez une caisse remplie de sable. Alors il faut toute une organisation parce qu'il faut faire des tiges filetées qui vont traverser le sable pour venir se fixer en dessous dans le plan de travail. Mettre en route la scie, avec la vibration ça va tasser le sable, et ensuite vous remettez un coup de clé pour serrer vos tiges filetées, et votre scie va être bien fixée sur ce socle de sable qui va vachement atténuer les vibrations. Dernier petit conseil, attention, évidemment c'est une lame, ça fait mal aux doigts, ça coupe, on utilise des gants, alors préférez des gants très fins parce qu'il faut avoir un peu de précision dans les doigts quand même. Si vous vous sentez assez à l'aise pour travailler sans les gants, juste la technique, c'est quand votre pièce de bois devient toute petite et que vos mains doivent se rapprocher de la lame, vous allez attraper votre pièce de bois par l'arrière de la lame. C'est-à-dire qu'au lieu de venir pousser votre pièce de bois contre la lame, vous allez aller tirer votre pièce de bois, ce qui fait que vos doigts ne vont jamais aller dans le sens de se rapprocher de la lame, mais toujours dans le sens de s'en éloigner. Ça, c'est pour éviter de vous couper un doigt. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en ai fait et qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Donc pour le petit jeton premier joueur, j'ai utilisé du médium de 5 mm. Donc le médium, c'est un bois qui est très dense. Enfin, c'est un bois, c'est pas du bois, c'est des fibres de bois compactées. Mais ça donne un matériau qui est très dense et qui a une texture très uniforme. J'ai préparé mon dessin à l'ordinateur. Donc j'ai extrait le logo Proxy Jeu. Je l'ai plaqué sur un fond noir. Et je l'ai imprimé en plusieurs exemplaires pour au cas où je me serais trompé. Puis je suis venu le coller alors avec de la simple colle en bâton d'un type colle UHU. Je l'ai collé donc sur mon médium. Et du coup le dessin lui-même sert de guide visuel pour la découpe. On peut faire évidemment une découpe au plus proche du dessin. Là ce que j'ai choisi de faire c'est une découpe en silhouette. Donc la découpe est toujours à plus ou moins 3-4 mm du dessin. Donc on attaque la découpe par un bord du bois, puis on va venir se rapprocher doucement du dessin. On apprivoise un peu la scie. Bien sûr, vous pouvez tout à fait faire des essais avant pour voir comment, à quelle vitesse la lame avance, selon le type de matériau, etc. Et quelle torsion vous pouvez donner à la lame pour voir le type de courbe que vous pouvez faire. Donc là, je fais ça, je fais ma découpe autour de mon motif. Au début, ça va, on a la pièce de bois qu'on peut tenir. Puis évidemment, plus on se rapproche de la fin, et plus la pièce de bois est petite, et donc il faut augmenter la prudence et faire attention où on met ses doigts. Et puis, une fois que la découpe elle est terminée, deux possibilités. Soit le motif est trop abîmé par la découpe, c'était pas mon cas, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, on le décolle tout simplement, éventuellement avec un peu d'eau, pas de problème, le médium ça supporte très bien de prendre un petit peu d'eau, alors vous le laissez pas tremper dans l'eau, mais vous le nettoyez avec une éponge et le papier va s'en aller. Et puis, du coup, vous allez pouvoir faire une découpe où vous retournez votre pièce de bois sur votre dessin, et puis vous allez faire votre découpe autour de la pièce de bois, et venir coller le dessin sur la pièce de bois. Éventuellement, vous pouvez peindre la pièce de bois. Bon, moi, j'ai pas eu besoin de faire ça parce que mon dessin, il a bien résisté. Un petit peu de papier de verre pour enlever les petites bavures qu'il peut y avoir. Et ensuite, j'ai mis du vernis en spray dessus. On pourrait mettre du vernis au pinceau, évidemment. Voilà, donc ça fait un jeton premier joueur qui est sympa, hein. Ça fait une pièce de 5 cm à peu près, et puis avec la forme donc adaptée au logo. J'ai aussi fait des jetons ronds. Alors bon, c'est pas tout à fait facile de découper un rond. Ce que je me dis que j'essayerai la prochaine fois, c'est de fixer ma pièce de bois sur un pivot pour la faire tourner et du coup faire un cercle parfait. Mais là, bon, je l'ai fait tout simplement en suivant le dessin. Donc là, c'est pareil, j'ai imprimé un motif. En fait, c'était une petite icône, un logo. J'ai rajouté le cercle à la main sur l'ordinateur, j'ai imprimé, puis ensuite j'ai découpé de façon à ce que la scie elle fasse disparaître le cercle que j'avais imprimé, et donc il restait que le motif. Et donc les autres idées qu'on pourrait avoir de l'utilisation de cette scie, on pourrait imaginer de faire des meeples ou des bateaux ou des pions en forme de moulin à vent ou de ce qu'on veut. Pour être utilisé dans un jeu. Alors c'est probablement pas l'outil idéal pour ça, une fraise serait plus adaptée, mais on fait avec les outils qu'on a, donc je pense qu'on doit pouvoir faire sans trop de difficultés des petits jetons de ressources comme ça, ou des petits ouvriers, des choses comme ça. Autre idée, c'est pour faire des tuiles un peu compliquées à découper, typiquement des tuiles à la comme celle de Taluva ou celle de Mage Knight, qui sont des tuiles avec des motifs un peu compliqués. Si on veut découper ça dans du papier... même du papier un peu épais, c'est facile, avec des ciseaux. Dans du carton, type carton de calendrier, ou dans du bois, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, la scie à chantonner, elle prend tout son sens. Ensuite, pour faire des pièces qui sont bien droites, c'est pas forcément l'outil le plus adapté, mais on peut fixer un guide sur le plan de travail de la machine, et du coup, faire une découpe parfaitement parallèle au guide. Ensuite, je pensais aussi à la possibilité de faire une découpe en forme de puzzle, typiquement pour raccrocher deux morceaux de plateau de jeu, par exemple. Vous faites un plateau de jeu qui est trop grand, vous le découpez pour le rentrer dans la boîte, et puis vous faites une découpe en forme de puzzle. Donc là, l'idée, c'est quoi ? Vous collez votre motif sur votre bois, vous vernissez, par exemple, et ensuite, vous allez le prendre à l'envers, vous allez tracer au dos la découpe en forme de puzzle que vous voulez, et venir découper avec la scie à chantonner cette découpe en forme de puzzle. Le gros intérêt, c'est que la lame elle est assez fine, donc il y aura une épaisseur de trait de lame, mais qui sera très fine, et donc l'assemblage du plateau de jeu, une fois posé sur la table, se fera très bien. Avec une scie sauteuse, par exemple, ça n'irait pas, parce que le trait de la lame serait trop épais, et les deux morceaux de plateau de jeu auraient trop de jeu, et ça serait pas agréable à utiliser. Voilà, donc tout ce qu'on peut imaginer comme découpe un petit peu complexe dans du bois comme ça un peu fin peut être tout à fait effectué avec une scie à chantonner. Alors bon, les gammes de prix évidemment ça va de très peu cher pour la scie manuelle à plutôt très cher pour une scie industrielle. Chez Dremel, ils en font une électrique qui peut à la fois se manipuler tenue à la main et à la fois sur un plan de travail. Et qui vaut dans les 90€, donc ça peut être un bon compromis, je pense. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, pourquoi pas d'aller explorer un peu d'autres outils et d'autres pistes de ce qu'on peut faire dans son garage en rapport avec le jeu de société. Typiquement, on pourrait imaginer de faire des inserts, d'utiliser la scie à chantourner pour faire les découpes d'assemblage, si vous voulez faire un insert ou une toradée ou ce genre de choses. Ben, des choses que vous voyez souvent sur Internet, vous dites, ah ben, il faut une découpeuse laser pour faire ça. Ben, il faut pas forcément une découpeuse laser. Une scie à chantourner peut très bien faire l'affaire. Y compris d'ailleurs si on doit faire une découpe à l'intérieur de quelque chose, puisque la lame se démonte assez facilement. Faire un trou à la perceuse dans le bois et venir passer la lame dans le trou pour continuer la découpe, c'est tout à fait faisable. Bon, il faut beaucoup d'entraînement pour être très précis avec. Moi, j'ai vu des gens sur Internet qui font des portraits ou des arbres ou des ramifications comme ça, très fines, des choses très jolies. Voilà, donc maintenant que vous savez quoi faire de vos 10 doigts, en faisant attention à pas les couper, jouez bien.
Merci Courju pour cette chronique. Maintenant, on saura comment...
On sait tout sur la scie à chantourner manuelle ou électrique. T'as déjà utilisé ce genre d'outil ?
Non, pas... Mais ça m'intéresserait bien, ouais, parce qu'on peut faire des petites découpes assez précises. Et je pense qu'il y a beaucoup d'utilisations qui peuvent être sympas avec ça, quoi.
Bah, en écoutant une ancienne chronique Do It Yourself qu'il avait fait avec Alexis... J'avais pris leurs conseils pour fabriquer des plateaux en relief, et pour ça j'avais utilisé les fonds d'armoire qu'on a dans les armoires IKEA par exemple. Ouais. Et en fait, on peut les acheter par plaque chez Leroy Merlin. Donc t'as des plaques de 1 mètre carré, ça vaut pas grand chose, ça doit valoir une dizaine d'euros. Et c'est vraiment la matière idéale parce qu'elle est épaisse et en plus elle se découpe bien à la scie. Moi, j'avais utilisé une scie sauteuse électrique pour...
Comme un bourrin, quoi. Ouais. C'est ça, quoi.
Mais pour découper des hexagones, c'était quand même pas évident, quoi. Fallait suivre le motif. Et quand t'as des angles assez pointus, c'est pas facile de suivre le contour. Hein.
C'est pas facile de changer de direction avec une scie sauteuse.
Mais du coup, si j'avais su à l'époque qu'il fallait utiliser une scie à chantourner, peut-être... Je m'en serais un petit peu mieux sorti.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, je vais être obligé de refaire maintenant.
Voilà, c'est reparti pour un tour.
Voilà.
Et pour trouver ce matériel, vous ne le trouverez pas chez Philibert par contre. Hein. Attention, pas de scie à chantourner tournée chez Philibert,
voilà.
Je crois pas.
Faut qu'on leur propose du matériel de do it yourself.
Ouais, peut-être. Ensuite, on va enchaîner avec la chronique plateau numérique.
Il n'a pas voulu de moi ce mois-ci. Cyrus.
Non, mais non, c'est pas Cyrus, c'est Fendoel qui nous présente. Ouais, c'est le mois de Fendoel ce mois-ci.
Ah, il se le partage.
Voilà, il se partage la garde. Et Fendoel, il est allé à la ferme pour aller voir les moutons et pour aller voir les terres d'élevage. Il nous parle donc de Agricola Terre d'élevage, la version 2 joueurs qui est dispo sur Android et iOS, il me semble, les deux.
Ouais, alors je sais pas, parce que la version complète, elle est vraiment top en termes d'implémentation sur iOS. Donc pourquoi jouer à la version terre d'élevage, parce que c'est quand même assez, enfin c'est un peu élagué, c'est un peu épuré par rapport à la version standard du jeu. J'ai pas encore écouté sa chronique, mais j'ai hâte de voir d'avoir son ressenti dessus.
Voilà, bah on vous laisse l'écouter, on va l'écouter ensemble.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des plateaux numériques, le numéro 18. Aujourd'hui, je vous présente l'application Agricola Terre d'élevage. Agricola, c'est un jeu sorti en 2007 pour 5 joueurs de Uwe Rosenberg, dans lequel chaque joueur incarne une famille d'éleveurs qui plantent des carottes, font se multiplier les moutons et autres animaux pour gagner la partie. Mais ici, je vous parle de l'adaptation, non pas de Agricola, mais de Agricola Terre d'élevage, en anglais All Creatures, Big and Small. Je me demande où ils ont pu trouver cette traduction. Édité par Philosophia en 2012 chez nous, il s'agit d'un jeu jouable uniquement à 2 joueurs et qui serait une version simplifiée de son grand frère, sorti 5 ans plus tôt. On n'élève plus des carottes, mais on élève juste des animaux, donc des moutons, des cochons, des moutons et des vaches. L'application est en français. Le jeu se compose d'un plateau central. Chaque joueur possède également un plateau individuel. À chaque tour, les joueurs vont alternativement placer leur pion action pour réaliser une action, par exemple récupérer des moutons, les placer sur un plateau individuel, récupérer des clôtures, acheter des bâtiments. Quand chacun a placé tous ses pions action, chacun les récupère, on recharge le plateau central, c'est-à-dire qu'on remet des animaux, du bois, etc. depuis la réserve. On fait 8 tours comme ça, et au bout des 8 tours, celui qui a l'élevage le plus hétérogène, les bâtiments les plus améliorés, remporte la partie. On doit donc trouver un équilibre entre amélioration et récupération des bestioles qui sont sur le plateau pour gagner. Le jeu est adapté en 2015-2016 sur Android, iOS, Windows Phone et Windows par Digidiced, à qui l'on doit Le Havre, Patchwork, etc. Le jeu est vendu au prix unique de 4,99€ sur tous les supports. Le tutoriel est composé de 3 parties qui s'enchaînent naturellement. Tout d'abord la présentation de l'interface, puis les bases du placement d'ouvriers et enfin les améliorations. Il existe une 4e partie qui consiste en un wiki en anglais. Si vous maîtrisez l'anglais, ça peut pourquoi pas être utile. Le tutoriel explique bien tout, mais c'est dommage à la fin en fait de ne pas pouvoir enchaîner directement avec une vraie partie. Au niveau du gameplay et de l'ergonomie, tout d'abord graphiquement, ça reprend l'univers du jeu. Personnellement, je suis pas très fan et je trouve que les icônes sont pas forcément super évidentes. De plus, certaines notions, si vous n'avez pas suivi le tutoriel, sont à mon avis un petit peu compliquées, comme genre placer des barrières. Il y a quelques petites subtilités sur comment ça se fait. Et à mon avis, après, si vous l'utilisez pas pendant un certain temps, vous devez forcément refaire le tutoriel pour savoir comment refaire ces petites actions toutes simples, en fait. Et sinon, l'écran de jeu affiche en fait le plateau central. Vous pouvez aussi passer sur le plateau de n'importe quel joueur de façon assez facile. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Alors, les autres fonctionnalités qui sont disponibles, il est possible de gérer un profil en ligne, donc sur le classement Digidiced. De gérer ses notifications si vous jouez plusieurs parties en cours, si vous avez plusieurs parties en cours, d'acheter d'autres jeux Digidiced, de télécharger alors un DLC, donc en fait une petite extension, l'extension des bâtiments de la ferme qui est disponible à 2,99€. Il est possible de lancer une partie, de voir les parties en cours pour relancer une partie précédemment démarrée, de relancer les tutoriels, également des options de langue, de vitesse de jeu, de son, etc. Et on a également des informations sur l'éditeur du jeu. Alors, tout d'abord, dans cette application, ce que j'aime, donc, c'est le décompte des points en temps réel. Ça change par rapport à la version carton, on sait absolument où est-ce qu'on en est durant la partie. On peut également annuler un coup tant qu'il n'est pas validé, ce qui est appréciable par rapport à d'autres jeux numériques. Le calcul automatique du nombre d'animaux apparaît directement sur les cases. En fait, c'est le nombre d'animaux qu'on peut mettre sur une case. Ça, c'est toujours pratique et c'est mieux que la version carton, on peut pas le nier. Je n'aime pas trop alors certaines petites choses comme la construction des clôtures, l'ajout d'extensions, c'est pas forcément évident. Ça c'est assez difficile à décrire d'un point de vue radiophonique, mais voilà, faut faire des allers-retours, c'est un petit peu laborieux. Niveau IA, pareil, assez décevant. Alors l'IA fait le travail, hein, on va pas dire le contraire. Mais simplement, elle n'est pas vraiment à un bon niveau. Vous pouvez la mettre en difficile. Vous arriverez à gagner sans trop de problèmes. Voici donc mon avis. Alors, le jeu est sorti cet été. Je voulais laisser le temps à Digidiced de corriger les bugs du début. Maintenant, l'application est stable. Ça, c'est chouette. Je trouve dommage qu'il n'ait pas mieux développé les IA, ainsi que l'interface que je trouve pas très originale, en tout cas par rapport à Patchwork du même éditeur qui était justement beaucoup plus beau, beaucoup plus personnalisé dans l'univers de Patchwork. Là on est un petit peu plus sur un truc un peu bateau, enfin pas bateau, ferme évidemment. Autant on tire parti du support numérique, autant je trouve que l'interface n'est pas toujours évidente. Alors ensuite, le prix, 4,99€, je trouve ça un peu cher. Surtout l'extension 2,99€, je le rappelle, et qui ne fait que rajouter 27 bâtiments supplémentaires. Bref, à mon avis, c'est clairement une application à réserver aux fans, ou alors vous attendez une baisse de prix. Voilà, jouez bien.
Merci Fendoel pour cette chronique. Et ensuite, c'est à ton tour, Père Castor. De quoi tu vas nous parler ce mois-ci ?
J'avais envie de vous parler d'un jeu pour se fâcher avec ses amis. Ah. Donc le terme officiel du jeu, c'est un gros jeu d'enfoiré. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas de Repose Productions. Ça tombe bien, c'est un jeu qui est édité par eux. Il s'agit de City of Horror. Donc c'est un jeu dans un univers zombie où on va pas s'entraider les uns les autres pour essayer de survivre. Mais on va essayer de faire survivre son équipe de personnages qu'on reçoit en début de partie. Et si possible, on va essayer de faire en sorte que les personnages des autres ne survivent pas.
Ouais, c'est sympa ça.
Voilà. Donc si t'es encore pote avec tes joueurs à la fin de la partie, c'est bon, ils sont
validés.
Mais
c'est bon enfant, c'est un jeu, c'est bon.
Ouais, mais tu peux pas le sortir avec n'importe qui en fait, ce jeu.
Faut pas être très, très rancunier.
Voilà, c'est ça, c'est un peu le problème de ce genre de jeu où t'as la négociation et de la traîtrise. Soit tu le prends...
comme
soit
un
tu
jeu,
le prends
quoi.
Personnellement, voilà. Et forcément tu te dis il me fait quand même des coups tordus là, où est-ce qu'il s'acharne contre moi. mais sinon ça met quand même une grosse ambiance autour de la table.
Ouais, je pense bien. Bah, on va écouter ça tout de suite.
Salut les joueuses et salut les joueurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. Pour cet épisode, je vais un peu sortir des sentiers battus car je ne vais pas vous parler d'un jeu dans le Top 500, mais dans le Top 1000. Rassurez-vous, ce sera la seule entorse à la formule habituelle. City of Horror est un jeu de Nicolas Normandon, illustré par Miguel Coimbra et édité chez Repose Productions. Le jeu est une réimplémentation de Mall of Horror, ou son titre français, Zombie, la blonde, la brute et le truand. Le jeu est sorti en 2012 et il pointe à la 977e place au classement BGG. L'aventure se déroule dans une ville américaine prise d'assaut par une horde de zombies, et vous devrez tenter de faire survivre un maximum de personnages de votre équipe de fortune, avant l'arrivée des secours héliportés. Difficulté supplémentaire, on vous laissera prendre place dans l'hélicoptère de secours uniquement si votre personnage transporte un vaccin récupéré dans les bâtiments de la ville. Chaque personnage survivant vous rapporte un nombre de points différent en fonction de si sa capacité spéciale a été utilisée ou non. Les personnages sont assez hétéroclites et originaux, pour ne pas dire déséquilibrés. Par exemple, la grand-mère n'est pas capable de se déplacer, sauf si elle utilise sa capacité spéciale déambulateur lui autorisant un unique déplacement pendant la partie. Ou encore la blonde, qui hurle perpétuellement, ramenant derrière elle un surplus de zombies. Sa capacité spéciale est le fait de la bâillonner pour qu'elle ne hurle plus. Alors il faut savoir que plus un personnage est faible, et plus il rapportera de points si jamais il survit. La partie dure 4 tours de jeu, symbolisant les 4 heures qui s'écoulent jusqu'à l'arrivée des secours. Au début de chaque tour, les joueurs choisissent simultanément une carte lieu et ensuite y déplacent un de leurs personnages dans l'ordre du tour. Si le lieu est plein, pas de chance, le personnage devra sagement atteindre dehors avec le risque de se faire croquer par un zombie. Ensuite, on passe à la résolution de chaque lieu. Si les zombies sont en nombre suffisant pour pénétrer, une attaque va avoir lieu si aucune action n'est entreprise. Libre à chacun d'utiliser ses armes et équipements pour décimer le nombre de zombies adéquats. Et si malheureusement trop de zombies sont toujours présents, c'est là qu'intervient la phase mesquine du jeu, car un personnage sera jeté en pâture à la horde de zombies. Alors là, c'est l'anarchie totale. Tous les coups sont permis dans la négociation. La seule règle est que les accords passés sur le lieu doivent être honorés. Mais ce n'est pas obligatoirement le cas des promesses futures pour les autres lieux. Comme dit, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. La négociation est un élément clé du jeu. Bien sûr, vous pourrez vous servir des cartes équipements et surtout des vaccins comme monnaie d'échange. Libre à vous d'offrir quelque chose de suffisamment précieux pour ne pas qu'on vous désigne comme étant le futur repas des zombies. Alors les informations sont également importantes car si vous avez un personnage en observation au château d'eau, vous pouvez anticiper l'arrivée des zombies sur les lieux pendant le tour. Donc ça peut être intéressant comme information à distiller auprès des joueurs. Alors une fois qu'un personnage est servi de pâture aux zombies, les heureux survivants se partagent un maigre butin de cartes d'équipement et de vaccins récupérés sur les lieux. Alors si vous pensiez que les jeux d'argent comme le poker étaient le meilleur moyen de se brouiller avec ses amis joueurs, c'était probablement sans compter sur le jeu City of Horror. Si vous êtes prêt à mentir, trahir, corrompre, abandonner vos partenaires, ce jeu est fait pour vous. Mais la question la plus importante est la suivante. Vos amis sont-ils faits pour ce jeu ? Au moment de démarrer une partie, je mets toujours un poids d'attention sur les événements probablement dramatiques qui risquent de se passer durant la partie. Alors évidemment, il y a un enjeu pour la victoire, mais il faudrait presque aborder ce jeu avec une approche jeu de rôle, même si ce n'en est pas un, car les traits les plus noirs de notre personnalité risquent d'être mis à la lumière. On est à l'opposé total d'un jeu collaboratif où règne l'altruisme et l'attention de son prochain. On est vraiment dans de l'égoïsme pur et dur. Je sauve ma peau, sans me soucier du sort des autres. D'ailleurs, ne vous attendez pas à la moindre compassion de la part de vos adversaires. Et pour conclure sur une citation d'Audrey Hepburn, « Si tu cherches une main secourable, cherche-la au bout de ton bras. » Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, jouez bien!
Merci Père Castor, mais c'était un peu une arnaque ton truc, parce qu'il n'était pas dans le top 500 en fait.
Ouais, c'est petite entorse ce mois-ci.
Il y a 500 jeux dans lesquels tu voulais parler, et non, tu veux nous parler d'un dans les 1000.
Mais tous les jeux que je possède...
T'aurais dû faire dans le top 1000 BGG alors comme nom de chronique.
Ouais, mais tu sais, quand j'ai commencé à participer à Proxy Jeux, tous les jeux que j'avais, ils étaient dans le top 500, puisque
t'avais pris que les meilleurs.
Voilà, je me servais même que du top 100 au début pour choisir mes achats. Et petit à petit, bah, t'élargis un peu. Hein, mais ça sera pas le seul. Hein. J'ai prévu de chroniquer un autre jeu qui, lui, est dans le top 1500. Donc... Du coup, je vais peut-être devoir renommer la chronique.
Ouais. Ok.
Mais contrairement à Dany, moi, je respecte la règle d'or. Les jeux que je chronique, on les trouve. Bon, sauf ceux du mois dernier. Malheureusement, j'ai chroniqué Lewis et Clark. Et, j'ai appris en direct avec les Ludonautes que malheureusement, pour le moment, bah, qu'il n'y aurait pas de reprint de prévu. Ouais.
Bah, il doit y en avoir sur Ocaseo, je pense.
Oui, ça doit encore se trouver. Malheureusement, sur Philibert, il ne l'avait plus au moment où on les a reçus il y a deux semaines et demie.
Ok. Ensuite, on va parler de jeux solo un petit peu, jeux solo et casse-tête avec un ancien chroniqueur et une nouvelle chroniqueuse. C'est Papy Grincheux. Alors, pour l'occasion, il a embauché sa fille Élise pour nous parler des jeux solo. Voilà, parce que sa fille elle aime bien jouer en solo. Parce qu'elle veut pas jouer avec Papy Grincheux, mais ça.
Oui, il est mauvais joueur, c'est pour ça.
Ouais, ça doit être ça.
Mais je crois qu'il y a personne qui aime bien jouer avec lui.
je ne sais pas, j'ai jamais joué avec lui. Ah j'ai bon toujours réussi à m'esquiver.
Ah, tu l'as évité au week-end proxy jeu, c'est bon.
Alors, ils vont nous parler de Viking et de Gravity Maze. On les écoute tout de suite.
Donc, c'est des casse-têtes et des.
Voilà,
et casse-têtes, des
jeux solo.
Bonjour à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui, pour vous parler de casse-tête, de jeux solo, je suis avec ma fille Élise.
Bonjour.
Les casse-tête, ce sont ces petits jeux qu'on peut trouver donc sur le marché des jeux de société.
Be careful.
Qui sont des jeux où on se creuse la tête à résoudre des espèces de puzzles. On va vous parler aujourd'hui de Viking, de chez Smart Game, et de Gravity Maze, de chez ThinkFun. Qui sont donc deux jeux de logique et de réflexion qu'on peut jouer tout seul. Alors pour cela, je suis avec une grande joueuse de casse-tête, ma fille Élise. Élise, peux-tu nous dire pourquoi tu aimes ce genre de jeu ?
Bah, c'est facile parce que on peut y jouer tout seul, parce que moi j'aime pas trop les jeux de société là où on peut perdre. Là, il n'y a pas vraiment moyen de perdre. Soit on réussit pas, mais on peut toujours réessayer.
Et t'as besoin de personne, t'attrapes la boîte quand tu veux.
C'est ça.
D'accord. Alors, on va commencer par vous parler de Viking. Élise, est-ce que tu peux nous expliquer comment on joue à Viking ?
Donc, on a un petit plateau avec des petites tuiles qu'on peut tourner et des petits bateaux, donc avec des espèces de petites flèches qu'on place sur le côté du petit plateau. Et puis, on fait tourner les petits bateaux avec les petites tuiles pour les mettre devant les petites flèches de couleur.
Il y a combien de petits bateaux ?
4. Il y en a un rouge, un jaune, un bleu et un vert.
Et il y a combien de tuiles ?
9 à peu près, il me semble.
9, ça fait 3 par 3. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que certaines tuiles facilitent le mouvement, on peut les tourner facilement, tandis que d'autres, en fait, bloquent.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu penses du matériel du jeu ?
Bah, il est joli, il est mignon, c'est facile à utiliser, c'est solide malgré que ce soit en plastique, mais c'est très agréable.
Bon, je trouve ça aussi assez agréable, le jeu est assez compact, il est facile à emporter, mais je trouve que le son des fois quand on manipule le plastique contre le plastique par rapport à d'autres casse-têtes qu'on a qui sont en bois, je trouve le son du plastique des fois un tout petit peu désagréable.
C'est vrai.
Alors ensuite, évidemment, ce genre de jeu a d'intérêt par rapport à la difficulté des casse-têtes, des puzzles, donc on en a ici 60 et ils sont présentés dans un petit livret facile à consulter, agréable, évidemment du plus facile au plus difficile, enfin classé par niveau, c'est un grand classique dans toutes ces gammes de jeux. Et l'avantage que je trouve sur ce système, c'est que pour une fois, la solution est présentée de manière illustrée, très claire, avec des petits schémas, avec les couleurs des bateaux, là où ils doivent arriver, dans l'ordre. Et ça, c'est bien pratique.
C'est vrai, parce que des fois, on n'arrive pas à lire la solution Quand c'est par exemple au dos des, si on a des cartes, au dos des cartes, et ben c'est pas forcément très clair, on comprend pas. Par exemple dans Rush Hour, et ben on comprend pas.
Oui, c'est ça, c'est des systèmes de coordonnées simplifiés, des choses comme ça, on se croirait en train de lire une solution de jeu d'échecs, c'est pas très agréable. Alors on va parler maintenant du rangement, Élise.
Donc le rangement c'est plutôt facile, hein. Après la boîte est peut-être un peu grande par rapport à la taille du plateau.
Ça prend beaucoup de place, oui, c'est vrai que la boîte, une fois ouverte, c'est une boîte qui est faite plutôt pour être présentée, donc c'est une boîte en carton avec à l'intérieur, on voit le matériel qui est présenté sous plastique. Et une fois qu'on a ouvert tout ça, bah en fait le plastique nous encombre un petit peu et surtout la boîte du coup elle fait au moins 3 cm de trop de chaque côté, alors que sur certains autres puzzles qu'on a, notamment
Aventurier ou IQ Kanji, c'est vraiment une boîte toute petite. Elle doit faire à peu près 10 cm, un truc comme ça, parce que c'est vraiment tout petit.
Et ces boîtes-là, bah, c'est facile à emporter en vacances ou dans un petit sac quand on sait qu'on va s'embêter. L'originalité du jeu, Élise, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, c'est bien le thème des Vikings, avec les petits bateaux à manier, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien.
Moi, j'aime beaucoup les petits bateaux, ça donne presque envie de faire un petit jeu. Alors, on va parler maintenant, pour finir, de la difficulté du jeu.
Donc, moi, je trouve que c'est quand même plutôt difficile, étant donné... Enfin, c'est normal, après, parce que ça évolue, en fait. Au début, c'est des niveaux très faciles, et puis après, ça commence à devenir plus difficile, parce qu'il y a plusieurs bateaux, après. Donc, dès qu'il y a plusieurs bateaux, on est vite coincé. Donc, c'est un petit peu embêtant, des fois.
Toi, personnellement, t'es arrivé jusqu'à quel niveau ?
Pas plus du niveau 8, à peu près, sur les 60 qu'il y a.
Ok. C'est vrai que c'est un jeu, je trouve aussi, un petit peu difficile. Alors, c'est vrai que mentalement, c'est pas du tout évident de tourner, c'est assez original. Alors voilà, c'était Viking. Un petit mot pour conclure sur Viking ?
Bah, c'est un jeu très mignon, très facile, enfin très facile, non. Plus, un petit peu difficile, et puis bah faut réfléchir, quoi, c'est un casse-tête, tout simplement.
D'accord, bah oui. Alors Viking de chez Smart Game est disponible avec un livret en français chez Philibert au prix de 22,99€, on va dire 23€. C'est un casse-tête qui est annoncé pour à partir de 6 ans. Oui, peut-être pour les premiers niveaux. Enfin, je pense qu'il faut quand même être un petit peu plus très assidu au niveau casse-tête ou un petit peu surdoué pour y arriver rapidement. Et on peut y jouer tout seul ou... Si on veut être plusieurs à réfléchir, ça peut tout à fait être possible. C'est ce que tu fais des fois avec ta sœur, vous en faites.
C'est vrai, j'en fais des aussi avec toi des fois. Chacun son tour, hein. Après, on fait comme on veut. Moi, j'aime bien faire avec des gens des fois, parce que sinon, tout seul, des fois, c'est un petit peu ennuyeux.
Voilà, finalement, jouer tout seul, c'est bien, mais finalement, c'est un petit peu ennuyeux.
Oui, c'est vrai.
Ok, on va revenir tout de suite pour maintenant parler de Gravity Maze.
Gravity Maze is a falling marble logic game by Think Fun.
Le jeu de logique où on fait tomber une bille. Et donc c'est un jeu de casse-tête original dans lequel on va essayer d'amener une bille à travers un circuit de petits blocs acidulés de hauteurs diverses jusqu'à un bloc rouge où il doit impérativement arriver. Donc ce qui est amusant, c'est qu'effectivement on va se servir de la gravité et pour résoudre le puzzle, en fait on va lâcher une petite bille chromée et qui va atteindre son but à travers un petit circuit, un petit dédale avec des virages, des petites chutes, etc. C'est assez rigolo. Alors Élise, qu'est-ce que tu peux dire de ce jeu ?
Bah, c'est amusant, il y a des petites tourelles, c'est plutôt joli quand même. Par contre, la mise en place, faut bien regarder les cartes. Là où il y a les différents puzzles, en fait. Donc, il faut bien regarder, il faut faire attention, parce qu'il y a des petits points pour un petit peu localiser là où, comment il faut les mettre. Donc, voilà.
Il y a des petits repères, parce que le sens des blocs est important dans la mise en place. Donc, il faut faire attention. Il y a des petits points noirs pour bien dire dans l'espace. C'est assez bien indiqué sur les cartes, quand même.
Oui, ça va.
Mais il faut être un petit peu attentif. Alors, c'est un jeu, effectivement, où le matériel est assez surprenant. J'aime beaucoup les couleurs du plastique sont acidulées, du violet, du orange vif, du vert, du bleu. C'est assez joli, on a l'impression d'être un petit peu dans un parc d'attractions miniature.
Oui, c'est vrai, c'est mignon.
On a envie d'être dans le toboggan.
C'est vrai, moi aussi.
Le rangement est plutôt bien foutu. Moi, j'aime bien parce que tout est à sa place. Toi, tu aimes moins bien le ranger, en fait.
Oui, c'est vrai, ça prend un petit peu plus de temps parce que des fois, il faut mettre dans un sens différent parce que sinon, ça rentre pas ou voilà. Enfin, moi, je préfère le sortir que le ranger.
D'accord. Alors, ce que j'aime bien aussi par rapport au matériel, c'est qu'ils ont fourni 3 billes, ce qui fait qu'on ne peut pas perdre la bille.
Oui. Les cartes, il y en a 60, donc pour les 60 casse-têtes à faire, enfin puzzle. Et puis, bah, y a la solution au dos, mais ça va, par rapport à d'autres, la solution est plutôt facile à lire.
Oui, ça va, parce qu'il suffit de mettre le bloc au bon endroit.
Avec les petits points qui correspondent au sens.
À l'originalité, moi je trouve que ce jeu est très original, effectivement. On a une bonne sensation quand on lâche la bille, c'est très très amusant, parce que pour une fois c'est pas intellectuel, ça se passe vraiment dans la physique. Par contre, je pense que, honnêtement, personnellement, moi je trouve que ça manque un petit peu de fun dans les parcours. C'est-à-dire que tous les blocs, quelle que soit leur longueur, il y a des blocs donc de 1, de 2, de 3, de 4 et jusqu'à 5, un gros bloc de 5 je crois, bleu. Oui. Mais le problème c'est qu'à l'intérieur de ces blocs, en fait c'est toujours la même chose, c'est soit ça tourne, soit c'est tout droit.
Non, ça peut tomber aussi, ça ne tourne pas forcément. Enfin.
D'accord. Bah, moi, je trouve que ça manque un tout petit peu de fun dans le parcours, justement par rapport à ce côté parc d'attraction. Je trouvais que les casse-têtes, finalement, c'est toujours un petit peu la même chose. Moi, je m'en suis lassé assez vite, alors que je l'avais pris pour moi, c'est ça qui est drôle. Je trouve qu'on voyait un petit peu les mêmes pièces, quelle que soit leur longueur. Pas de tunnel, pas de truc en spirale. Enfin, voilà, c'est mon côté nostalgie du mini-golf qui parle.
Moi, j'aime bien parce que c'est plutôt facile, en fait, en soi. Enfin, moi, j'en suis au niveau à peu près 35, je dirais. Et puis, je trouve ça plutôt facile. Et puis, c'est bien le fait de faire tomber une bille jusqu'à une petite case. Moi, j'aime bien.
On va parler de la difficulté maintenant. Elise, t'en es donc arrivée...
Au niveau 35, à peu près, il me semble. C'est facile. Oui, ça va. Hein. Et puis, des fois, on a la possibilité de mettre les blocs à l'horizontale. Donc, ça varie. Donc, c'est plutôt bien.
D'accord, très bien. Il faut que je rejoue plus, alors. Donc Gravity Maze, en conclusion, est un bon jeu de casquette, est un bon jeu de casse-tête, plutôt original, bien présenté, avec un matériel superbe, on en a pour son argent, c'est vrai que c'est très joli, et avec une difficulté par contre effectivement qui monte progressivement je trouve.
Bah oui, ça va.
Voilà, on n'est pas bloqué très vite et en même temps il n'y a pas non plus plein de niveaux trop faciles.
C'est vrai.
Il est disponible chez Philibert, notre partenaire, au prix de 26,90€. Il est annoncé à partir de 8 ans. Je pense que c'est bien.
Bah oui, 8 ans, ça va. Hein.
Voilà, parce qu'il faut quand même faire un petit peu attention à la mise en place. Et puis, c'est du matériel qu'on peut perdre aussi. Hein. La petite bille, il ne faut pas faire n'importe quoi, ni l'avaler, ni commencer à la faire tomber par terre, parce qu'elle est quand même en métal. Donc voilà, pas la perdre sous le canapé. Donc je pense que c'est bien fait.
Et puis oui, c'est bien fait, parce qu'au niveau de la mise en place, après, il faut être attentif au sens. Donc 8 ans, ça va, quoi.
Ok. Here's how to play. Choose a challenge to begin. Pour conclure, donc Gravity Maze, un jeu Synfun, et Viking, un jeu Smart Game, tous les deux aux alentours de 23 et 27€. Je vais laisser Elise vous annoncer la suite.
Donc pour la prochaine fois, IQ Candy et Au Voleur, tous les deux des jeux de Smart Games.
Et voilà, c'est bien annoncé. Maintenant, je vais vous laisser jouer. Jouez bien.
Même tout seul.
Même tout seul.
Merci Papy Grincheux et Élise, c'était une très bonne chronique.
Ouais, ça rajoute un peu de jeunesse là voilà. Dans la chronique.
Et ils nous en feront encore quelques autres, ils nous ont dit.
Et ensuite, on a un grand retour, celui de Yannibus, donc pour sa première chronique de la saison.
Okay.
Donc il continue la formule de l'an dernier, hein, donc toujours des jeux qui sont passés sous le radar, mais qui valent le coup d'être découverts. Et ce mois-ci, il va nous faire découvrir un jeu de dés qui s'appelle tout simplement AV.
AV.
Donc AV comme en latin, hein, comme bonjour. Ouais. Et si vous voulez le titre officiel du jeu en VL, donc en version latin, c'est Alea Romana.
Ok.
Oui, parce qu'en fait, pour la petite blague, donc le jeu il est édité chez Gigamic. Et Gigamic, sur leur site, ils ont mis en ligne la règle écrite en latin du jeu.
Ah, ça doit être sympa ça.
Bon, moi j'ai fait Langue Morte 1 en 5e, donc j'ai un peu oublié le latin depuis.
T'avais pris grec ancien, t'avais pas pris le latin. Ah, c'est quel dommage. Ok. Ouais, donc on vous laisse écouter Yannibus qui vous parle de AV et on vous laisse télécharger les règles du jeu en latin en même temps.
Mais c'est quoi ces vieilleries ?
Sous le buzz par Yannibus.
Salut les joueurs, salut les joueuses, salut la Proxy Team. Bon, on peut le dire, la rentrée de cette saison 2016-2017 est, à mon sens, complètement ratée. D'une part, j'ai raté l'enregistrement du premier épisode de Proxy Jeux. D'autre part, je ne sais pas pour quelle raison on a pris cette décision l'année dernière, mais mon groupe de joueurs et moi-même avons décidé de ne plus aller à SN tous les ans depuis Nantes et d'y aller une fois sur deux. J'ai donc pas participé aux événements ludiques des derniers mois. même si je le voulais, je ne pourrais pas vous proposer une chronique d'un jeu sous le buzz. Éventuellement, je pourrais vous parler de l'extension de Seven Wonders Duel, qui est assez exceptionnelle pour le jeu, qui est, pour ce jeu qui était déjà excellent. Enfin, c'est, je sais plus si on en avait parlé dans l'épisode d'été, avec Merlin, et Krillin, mais c'est un de mes gros coups de cœur, là, de 2015-2016. L'extension est très bien également, apporte pas mal de nouveautés sans sans réduire l'impact que pouvait avoir le militaire ou le scientifique, et donc c'est vraiment vraiment très très intéressant. Mais bon, je ne vais pas vous parler d'un jeu qui fait le buzz, j'ai décidé de conserver les thèmes de ma chronique pour cette nouvelle année, et donc je vais vous parler d'un petit jeu sous le buzz. Vous le savez, j'aime bien les jeux de type Yams. Il me semble avoir fait une chronique sur Octodice. Si c'est pas le cas, faudra que je regarde l'historique. Si c'est le cas, je vous propose d'écouter les épisodes précédents pour avoir mon avis donc sur ce très très bon jeu de 2D. Il y a quelques mois, j'ai également joué à Quix chez Gigamic. Et là, je vais vous parler d'un autre jeu de dés sorti, il me semble, au printemps chez Gigamic, qui s'appelle AV. AV est un jeu édité, donc, comme je vous l'ai dit, par Gigamic, qui a été créé par David Parlette et Johan Krenner, pardon, et disponible, donc, à partir de 10 ans, 13,50€ chez notre partenaire Philibert. Dans AV, 2 à 6 joueurs vont s'affronter, donc, c'est un jeu qui se joue au tour par tour avec un élément de stop ou encore. Lors de votre tour, vous prenez le premier parmi les 6 dés qui vous sont alloués. Ces dés ont donc des faces représentant des chiffres romains, 4 faces représentant le I, le chiffre 1, 2 faces représentant le X, le chiffre 10, et une face représentant le 5, la lettre V, pardon, le chiffre 5. Vous allez lancer un premier dé, puis choisir de lancer un deuxième dé, éventuellement un troisième dé, jusqu'au sixième. Sachant que si jamais vous lancez un dé et que le chiffre romain ne permet pas de composer un nombre romain avec les autres dés que vous avez déjà lancés, vous perdez le tour. Une fois que vous décidez d'arrêter, vous avez la possibilité donc de mettre le nombre que vous avez composé grâce au dé que vous avez lancé dans un des 7 emplacements disponibles pour votre feuille de score. Sachant que si par exemple vous choisissez de positionner le nombre sur l'emplacement 3, eh bien tous les emplacements 1 et 2 devront être utilisés pour des nombres inférieurs à celui que vous avez mis sur l'emplacement 3, et bien entendu les emplacements 4 à 7 pour des nombres supérieurs à celui que vous aurez mis dans l'emplacement 3. Au fur et à mesure du jeu, il est donc de plus en plus difficile de placer les nombres qu'on a fait, et donc le mécanisme de stop ou encore prend toute sa saveur. Pour vous aider et en faire un vrai jeu familial, vous avez également la possibilité d'utiliser une carte parmi 6 qui vous sont distribuées au début du jeu. Ces cartes sont utilisables uniquement dans le cas où vous êtes bloqué, c'est-à-dire que vous avez lancé un dé qui ne vous permet pas de composer un nombre, et ces cartes vous permettront, elles sont à usage unique, et vous permettront de rejouer un dé, de retirer tous les dés 1, tous les dés 5, de retirer un dé parmi les dés que vous avez déjà lancés, pour pouvoir ensuite saisir le score dans votre tableau de résultats. À la fin de la partie, le premier joueur qui remplit ses 7 emplacements déclenche la fin de la partie, et ensuite donc tous les résultats que vous avez mis dans vos 7 emplacements concourent à votre score final avec les cartes qui vous restent en main, et donc celui qui fait le plus gros score gagne à la fin de la partie. L'originalité d'AV par rapport à ses concurrents Octodice, Quix, qui eux présentent la particularité de que vous puissiez jouer en fait dans le tour de votre adversaire, ce qui permet effectivement qu'il n'y ait aucun temps mort durant la partie, c'est plutôt sur l'utilisation donc du mécanisme de stop ou encore au sein d'un même tour. Et également la particularité des chiffres romains, ce qui fait une gymnastique mentale qu'on n'a pas l'habitude de faire dans des jeux, surtout dans des jeux d'apéro, et qui est assez sympa et assez rigolote finalement dans la partie, c'est rare qu'on s'ennuie, même pendant le tour des adversaires, quand on les voit hésiter à lancer un troisième, un quatrième, voire un cinquième dé pour réaliser un nombre supérieur à ce qu'ils ont déjà saisi sur leur table de résultats. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura donné envie d'essayer ce petit jeu de dés, donc vraiment très sympathique. Les durées de partie sont de l'ordre de 15-20 minutes quand vous êtes 2, 3, 4 joueurs, un petit peu plus long quand vous êtes à 6, mais rien de rédhibitoire. Je pense qu'on ne doit pas dépasser la demi-heure, même à 6 joueurs. J'espère également que vous essaierez d'autres jeux type Yams Yahtzee, parce qu'on en a fait de très bons, effectivement, depuis cet illustre ancêtre. D'ici à la prochaine chronique, jouez bien.
Alors, il faut faire attention hein, quand on manipule le matériel du jeu. Quand on ouvre la boîte, faut pas croire que c'est un boggle, hein, parce qu'il y a des il y a des lettres qui sont écrites sur les dés, hein, mais ce sont les chiffres en latin. Hein. Donc du coup, on peut réviser les chiffres latins quand on joue à ce jeu, donc c'est bien. Pour la...
Mais il y a un boggle avec les chiffres, hein, c'est le foggle. Hein.
Ah, je connais pas.
Si il y a plusieurs versions du boggle. Il y a boggle, coggle et foggle, et voilà, il y a plusieurs. Ils en ont sorti plusieurs. Quoi. Alors dans cette chronique, Yannibus, il se demande s'il a déjà chroniqué Octodice. Et alors la réponse est oui, j'ai fait une petite recherche. C'était dans le numéro 70 chronique, donc c'était en début de saison précédente. C'était celui où on était dans l'espace avec Papy Grincheux.
Oui, il s'en souvenait plus, je pense que c'est à cause du manque d'oxygène dans l'espace.
Voilà, ça devait être ça. Ok, et donc du coup on va enchaîner avec Olivier qui nous a fait une chronique sur Oceanos. Est-ce que tu l'as écouté
Non, je ne l'ai pas reçu.
Bah oui, parce qu'il ne l'a pas encore enregistré. Voilà, donc...
Pourtant, mais j'ai fait l'effort de toutes les écouter avant de venir.
Oui, mais il a dit, oh, je l'enregistre vendredi, tu l'auras samedi pour ton montage. Donc voilà, maintenant on l'annonce, donc comme ça on lui met encore plus la pression. Et voilà. On écoute...
Il ne coupera pas, voilà.
Voilà, on écoute tout de suite ce qu'il nous dit sur Oceanos.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, je suis Olivier DPJ et aujourd'hui je vais vous parler d'Oceanos. Oceanos est un jeu d'Antoine Boza illustré par Jérémy Fleury. C'est un jeu paru chez Yellow en 2016, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour une durée d'environ une demi-heure. L'idée d'Oceanos c'est que chaque joueur aura un sous-marin, le même pour tout le monde au début de la partie, et que nous allons tous explorer les fonds marins. Le jeu se déroule en 3 manches et chaque manche est divisée en 5 tours. À chaque tour, les joueurs sont soit capitaine, soit explorateur. Les explorateurs vont recevoir 2 cartes, au moins au début de la partie. Ils vont en choisir une et vont donner l'autre au capitaine. Le capitaine va donc avoir plus de choix, mais il va devoir choisir sa carte parmi les cartes qui auront été rejetées par les autres explorateurs. Une fois que tout le monde aura choisi sa carte, il va la poser devant lui et il va constituer ainsi une sorte de cartographie des fonds marins sur 3 niveaux. Le premier niveau correspondant à la première manche, le deuxième à la deuxième manche et bien sûr le troisième et dernier niveau sera celui de la troisième manche. Qu'est-ce qu'on trouve sur ces cartes et comment est-ce qu'on gagne? Parce que je vous ai pas encore expliqué comment est-ce qu'on gagnait la partie. Le gagnant de la partie est celui qui aura le plus de points de victoire, c'est-à-dire celui qui aura fait la meilleure exploration. Sur les cartes qu'on va récupérer, on va avoir des symboles. On va avoir des symboles d'animaux. 4 petits et 4 gros, les petits étant les plus courants et les gros étant les plus rares. Ce qui va nous intéresser, c'est de faire des suites et d'avoir des animaux différents à chaque manche. Chaque manche, il y a un reset en fait entre chaque manche et on va compter les points des animaux à chaque manche. Et puis il y a des coraux. Et les coraux, ils vont compter à la fin de la partie. L'idée, c'est d'avoir le plus grand champ de corail, la plus belle barrière de corail possible, et donc de placer les cartes qui contiennent ce symbole corail, les uns à côté des autres, et on va pouvoir utiliser les 3 lignes pour faire ça. Il va y avoir également, on va pouvoir trouver des trésors, et trésors, c'est bien, ça peut nous rapporter des points à la fin de la partie. Mais, il y a aussi dans les profondeurs abyssal, le Kraken. Alors, il y a des petits Kraken plus près de la surface de l'eau, des Kraken un peu plus méchants quand on est entre deux eaux, et puis tout en bas, il y a des Kraken qui nous font perdre plein de points, parce qu'en fait, ça nous fait perdre des points à chaque manche. C'est un risque à prendre. Est-ce que je vais poser des cartes qui m'intéressent parce qu'ils ont des animaux, des trésors, des coraux, et puis ça va me faire des points de victoire, quitte à en perdre quelques-uns parce que je vais rencontrer le Kraken? Ou alors, est-ce que je la joue plus prudemment et j'évite le Kraken? Alors, l'idée générale du jeu est là. C'est un jeu de draft, un jeu de prise de risque, de stop ou encore. On va essayer d'avoir les plus belles suites et puis de prendre les cartes qui nous intéressent le plus et qui vont nous faire gagner le plus de points possible. Mais si je m'arrête là, je vais passer à côté du plus important, en fait. Parce que pour explorer les fonds marins, comme dirait Captain Nemo, on a besoin d'un beau sous-marin. Le sous-marin, c'est ce que vous allez trouver dans la boîte quand vous allez ouvrir Oceanos. D'ailleurs, c'est un véritable puzzle, on a plein de pièces, et pour cause, on a donc 5 sous-marins par personne, par joueur, et chaque sous-marin est composé de 5 parties qui peuvent être upgradées 2 fois. Les sous-marins sont donc composés de 5 parties. La première partie, c'est le propulseur. Il fait gagner des points de victoire, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fin de manche, on peut gagner, on gagne pas de points avec le propulseur de base, mais si on l'upgrade, on peut gagner 2 ou 5 points de victoire à la fin de la manche. Donc ça, c'est une façon de gagner pas mal de points de victoire. On a aussi un moteur qui nous donne du carburant. Le carburant va permettre d'avoir un jeton qui nous permet non pas de jouer une carte, mais d'en jouer 2. Et ça, c'est mieux, puisque plus d'éléments, plus de suites et plus de points de victoire. On a également l'aquarium qui permet de faire des plus grandes suites, 3, 5, 8 animaux différents, et donc de gagner autant de points correspondants. Et puis, on a le sas de plongée. Le sas de plongée nous permet de poser des scaphandriers sur les trésors et de les récupérer. Autre chose par rapport aux trésors, c'est que si vous les alignez et si vous avez sur chaque ligne, à chaque emplacement, par exemple, la première carte de chaque ligne, c'est un trésor, que vous posez un scaphandrier sur celle du bas, ben, le scaphandrier va remonter à la fin de la partie et va récupérer le premier trésor, celui sur la dernière ligne, le deuxième trésor sur la ligne du milieu et le troisième, celui du haut. Donc c'est un jeu d'optimisation, que ce soit pour le corail ou pour les trésors, prise de risque, anticipation, et puis un peu de chance, bien sûr. Dernier élément, le cockpit. Le cockpit vous permet d'avoir une carte en plus à chaque upgrade. Donc vous commencez avec 2 cartes, vous pouvez en avoir 3 ou 4, et ça permet d'avoir plus de possibilités. J'aime beaucoup Oceanos. C'est un jeu auquel on a pas mal joué cet été. On joue en famille avec des enfants qui ont 8 et 11 ans. C'est un jeu qui est très abordable, qui est très joli. C'est vraiment très agréable de pouvoir construire son sous-marin, de pouvoir l'upgrader, de pouvoir choisir une stratégie de développement. Les règles s'expliquent rapidement. Le jeu se joue vite, 30-45 minutes maximum. Et il est vraiment tout public, c'est-à-dire que c'est un jeu très familial. Le jeu est vendu 31,50€ chez notre partenaire Philibernet. C'est pour moi un excellent rapport qualité-prix. Typiquement, un travail que peut faire l'éditeur, donc Yellow, avec un graphisme très immersif. Un superbe travail de Jérémy Fleury sur notamment les détails des différents sous-marins qui sont tous différents. C'est vraiment excellent. Un jeu qui est vraiment familial, tout public, avec une durée qui est contenue, avec un prix qui est contenu, avec une bonne rejouabilité. Je pense que ça fait un excellent cadeau de Noël. Noël approche et je vous le conseille pour des familles. Donc Oceanos, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties d'une durée de 30 minutes. Un jeu de Antoine Bozard, illustré par Jérémy Fleury chez Yellow pour 31,50€. Je vous retrouve le mois prochain pour une chronique dédiée à Codename. Et en attendant, jouez bien!
Merci Olivier pour cette superbe chronique, c'était super intéressant.
On anticipe.
On anticipe, mais bien sûr. Si c'est Olivier, c'est forcément intéressant.
Ouais, ça fera plaisir de l'entendre à nouveau.
D'entendre sa voix. Pour ceux qui disent que c'était mieux avant, bah voilà, vous avez un petit aperçu de comment c'était avant.
Voilà, une petite Madeleine de Proust, on remet un peu des anciens.
Voilà, les anciens. Et on va toujours rester alors dans les anciens, parce que le vieux c'est important, c'est ce qui fait nos racines.
C'est ça.
Et en particulier. Origine. Voilà, les vieux jeux. Et donc, Dani, elle va nous parler de Power.
Ouais, ça, c'est pas la boisson énergisante.
Je pensais que c'était le bouton que vous savez qu'il fallait appuyer.
Ouais, Power, c'est un jeu pour de l'initiation au wargame.
Okay,
donc, c'est un petit jeu d'affrontement. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et il se situe dans un univers un peu années 60, années 70. Quand on regarde la couverture, on a l'impression que c'est une salle de crise avec les vieux ordinateurs. Un peu comme dans le film, ça m'a fait penser au film...
Wargame, ouais. C'est ça
Ouais, j'avais pensé à un autre, c'était Point Limite ou Fail Safe, où tout le film se passe dans une salle de contrôle
de crise.
Où il gère le DEFCON, en fait. Hein. Il gère les forces stratégiques. Donc c'est un peu ça ce que tu as sur la couverture. Et donc dans ce jeu, c'est un petit jeu de programmation où chaque joueur a son petit carnet. Donc tu vas noter les différents mouvements de tes troupes pour aller affronter les troupes des adversaires. Et il y a une petite originalité dans le jeu, c'est que au bout de 2 heures, ça s'arrête.
Oui, ça. Ça.
Donc ça c'est bien pour pas que ça s'éternise. Du coup, tu peux jouer la montre, tu sais, si tu vois que t'es...
Oh, alors je vais bouger ce pion.
Voilà. Bougez pas, faut que j'aille aux toilettes.
Voilà, c'est ça.
Comme ça, tu crames 5 minutes à l'horloge et comme ça, tu restes.
Mais il y a une horloge dedans ou c'est juste, on dit voilà, on commence à cette heure-ci, ça se finit dans 2 heures.
Alors, si jamais ils ont mis un sablier, ça va être un très gros sablier.
La boîte, elle fait 5 kilos rien que parce qu'il y a un sablier dedans.
Je pense qu'il faut se lancer son chrono sur son portable.
Son chrono perso. Voilà. Mais je sais qu'il y avait Blood Bowl qui faisait ça aussi. C'est que ça se joue en tour par tour. Et je crois que c'est... Je sais plus si c'est 2 ou 4 minutes. Mais normalement, ton tour, tu peux faire autant d'actions que tu veux. Tant que tu te fais pas... tant que tu te retrouves pas à terre ou que tu rates pas le ballon. Mais au bout de 2 ou 4 minutes, je sais plus, je crois que c'est 4 minutes, ton tour, il est fini. Quoi qu'il se passe... Donc ça permettait.
Tu peux enchaîner autant d'actions que tu veux.
Voilà, tu pouvais faire autant de choses que tu veux jusqu'à temps avant que chaque bonhomme ait bougé. Mais si au bout de 4 minutes, ça passait au suivant. C'était la fin de ton tour. Ça permettait de jouer une partie en théoriquement 2 heures, quoi. Bon, après. Ça dépasse toujours un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que si.
Ouais, mais là après il y a des engueulades. Tu dis hop, tu viens de faire ton mouvement là, t'as dépassé les 4 minutes.
Voilà. Donc on va quand même écouter Dani parce qu'on parle mais elle nous a fait une belle chronique. Allez, on part en DeLorean pour l'écouter.
Bonjour à tous. Cette fois-ci, j'ai choisi de vous présenter Power, pouvoir ou puissance en français, pour ceux qui n'auraient pas survécu à mon formidable accent anglais. Donc, c'est un jeu sorti en 1996 chez Spear, racheté par Mattel depuis. C'est un jeu de stratégie que je qualifierais de bébé wargame ou de jeu d'initiation au wargame. Chaque joueur incarne une armée qui va devoir prendre possession d'un archipel grâce à ses différentes factions. Chars, avions, infanterie, destroyers, mégamissiles, il y a largement de quoi faire. Au total, il y a 10 types de factions différentes qui ont chacune leurs caractéristiques de déplacement et d'attaque. Le système de jeu repose sur la programmation. Chaque joueur va inscrire sur une fiche dédiée ses coups, qu'on appellera ordre, et qu'il jouera au tour à venir. Il détermine la pièce, précise d'où elle part et où elle arrive. Il faut donc planifier ses actions en anticipant les actions de ses adversaires, ce qui est plutôt adapté à l'univers de stratégie militaire. Une fois que les ordres ont été déterminés, on les exécute. On résout les combats qui surviennent lorsque 2 adversaires ou plus sont sur la même case, et les gagnants capturent leurs ennemis. Ensuite, les joueurs reçoivent des power, qui sont des points de puissance, qui sont gagnés pour chaque case ennemie occupée. Ils sont essentiels au jeu car ils permettent d'acquérir de nouvelles unités à mettre en jeu au tour suivant. Dernière phase, s'il y a lieu, on capture les drapeaux. Lorsqu'un joueur atteint le quartier général de son adversaire et y capture son drapeau, il élimine son adversaire. Le dernier en lice gagne. Le jeu peut aussi se terminer si la partie atteint 2 heures. On termine alors la manche en cours et c'est le plus puissant qui gagne. Donc c'est un jeu qui a un matériel qui est vraiment sympa. Déjà, rien que la boîte. Moi j'adore la boîte, c'est une super grosse boîte noire avec le titre en majuscule écrit en lettres argent satillantes. C'est vraiment chouette. Et ensuite, il y a beaucoup de figurines, elles sont plutôt bien réalisées, ça donne envie de jouer. C'est un jeu qui reste simple, d'où mon qualificatif de bébé wargame tout à l'heure. C'est une bonne introduction à cet univers-là, notamment pour les plus jeunes. Il est recommandé à partir de 10 ans. Je pense que pour des enfants qui ont l'habitude de jouer à partir de 8 ans, ça doit passer. Après, il faut pas négliger le temps de jeu. Le jeu s'arrête au bout de 2 heures, mais se concentrer pendant 2 heures pour un enfant, suivant les enfants, c'est pas forcément évident. Et c'est encore un jeu que vous ne trouverez pas chez Philibert. Ça va devenir une habitude, je pense que vous l'aurez compris. C'est un jeu qui se trouve d'occasion sur le net pour un prix raisonnable, je dirais 10 euros. Vous aurez peut-être la chance de le trouver en brocante. Personnellement, j'en ai jamais vu. J'avais acheté le mien sur eBay pour 10 euros plus les frais de port. Comme il a dû être assez bien distribué, je pense qu'il doit quand même se trouver relativement facilement. Faut juste être guidé par une bonne étoile. Et même si je le classe dans les vieilleries, il date seulement de 96, donc il a 20 ans. Je pense que ça facilite quand même, ça donne des chances de le trouver. C'est tout pour aujourd'hui, et d'ici le prochain épisode, jouez bien.
Et malheureusement, vous ne retrouverez pas ce jeu chez Philibert.
Ah bah non.
Mais vous
le retrouverez en brocante,
voilà,
sûrement.
Au printemps.
Voilà.
Parce que là, c'est la saison un peu morte,
ouais,
des brocantes. Je pense que se retrouver à 6h du mat dehors, il faut être un peu courageux, pour pas dire autre chose.
C'est l'hibernation des brocanteurs.
Voilà.
Voilà, donc c'est tout pour cette fois. Vous pourrez retrouver les rôlistes de Au coin de la table et le jeu du mois de Cyrus et Benoît FX dans un épisode à part.
En fait, comme ils enregistrent trop longtemps, ça nous ferait un épisode de chronique un peu long. Donc
ouais.
Maintenant, on va systématiquement leur faire un billet à part et un épisode dédié pour chacun de leurs épisodes.
Et ils vont nous parler, et donc Cyrus et Benoît FX, ils vont nous parler de High School, donc un jeu de Pichenette. Et de Pillard de la mer du Nord. Voilà, deux jeux qui sont un petit peu différents dans le style, mais qui sont fort intéressants.
Ah, en jeu de Pichenette, moi j'avais réussi à dénicher Ascending Empires. Je sais pas si tu connais ce jeu.
Non, je ne connais pas ça.
Bah, je crois qu'il était sorti qu'à 2 ou 3000 exemplaires. Et je l'avais acheté sur une boutique en Malaisie. Pour le faire.
Ah oui, carrément.
Ouais. C'est un petit jeu de Pichenette qui se situe dans l'espace où il faut que tu te rapproches des vaisseaux des adversaires et que tu te rapproches aussi des planètes pour les découvrir et les coloniser. C'est pas mal, mais le problème.
Il y a des aimants pour représenter l'attraction de la planète pour ton vaisseau.
Même pas. Mais par contre, on pourrait presque dire que tu as des trous noirs parce que le plateau, c'est un gros puzzle qu'il faut assembler. Et si tu fais une pichenette sur ton vaisseau et que tu dois traverser en fait une connexion entre deux plateaux, ben.
T'es perdu.
Voilà, ton.
Oh là là.
Ton jeton, il partait un peu n'importe comment. Mais du coup, j'avais mis une plaque en verre synthétique dessus. Et je m'étais amusé à percer à la scie à cloche les gabarits des planètes. Alors, du coup, c'est un peu encombrant à transporter.
Oui,
mais...
c'est sûr. Ok.
Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Podcast, non. Proxy avec un I, jeu avec un X et podcast avec un P.
Et avec un, ouais, et un D aussi.
Voilà. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter et sur Facebook. Notez-nous sur iTunes, mettez-nous des commentaires, c'est toujours sympathique d'avoir des retours de votre part. Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, à vos amis joueurs, ou non. Bon,
Ouais.
Plutôt joueur, on va dire.
Vraiment mieux qu'ils soient joueurs.
Voilà.
Sinon, ils vont un peu se faire chier, quoi.
C'est ça.
Ouais, non, ils peuvent être bricoleurs et écouter la partie aussi à champ tourné, quoi.
Ouais. Voilà. Et peut-être, ouais. Ouais,
ah, on va proposer à Castorama de nous sponsoriser.
Voilà, on dira leur matos, c'est du bon.
Voilà.
Et en attendant,
jouez bien. Et oh, ne partez pas si vite, vous allez rater le concours. Ce mois-ci, nous allons vous faire gagner le scénario Sous le masque pour Time Story, une gracieuseté de Monsieur Guillaume Montiage, l'auteur du même scénario. Pour gagner, c'est très simple, il faut trouver qui est sous le masque des chroniqueurs de la Proxy Team et nous le dire dans les commentaires du site. Car en octobre, c'est le mois d'Halloween, on se costume et tout ça. Donc choisissez un chroniqueur, ou deux, pour plus de chance, et dites-nous qui se cache sous le masque de ce chroniqueur. Vous avez jusqu'au 20 novembre pour nous répondre en commentaire. Ensuite, la Proxy Team se réunira et choisira la réponse la plus drôle et originale. Par exemple, on peut dire que sous le masque de Dédé Schutz, il y a Anne Romanoff. Oui, parce qu'on est un peu des comiques incompris, tous les deux, quoi. Ou que sous le masque de Courju, il y a MacGyver, car avec des trombones et un chewing-gum, il te recrée Conan avec tous ses stretch goals. Je vous laisse faire vos propositions en commentaire. Je vous souhaite bonne chance. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, jouez bien.